3. C'est Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en compagnie de Sarah Manzano pour un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité. Salut Sarah, comment ça va?
Ça va bien toi Guillaume?
Ça va très très bien. Écoute, une petite neige fondante, tranquille, jolie qui tombe sur le campus de l'Université Laval en ce vendredi midi. Et on a également beaucoup de choses dont on va pouvoir parler dans l'actualité cette semaine. Parce que des nouvelles en termes de santé qui sont pas nécessairement des bonnes nouvelles. Par contre, une augmentation du nombre de cas au Québec, un nouveau variant découvert en Afrique du Sud, la panique qui s'installe en Europe. On en parlait la semaine dernière, mais c'est pas terminé. On va également parler beaucoup de politique municipale. Entre autres, Bruno Marchand commence à s'opposer directement au ministre des Transports, François Bonnardel. On va également beaucoup parler du congrès du Parti libéral du Québec qui va avoir lieu cette fin de semaine, qui est un congrès qui va être très, très important dans l'histoire de ce parti-là, qui tente de faire un virage à gauche.
Ben je dirais de renouveler son image de marque, I guess.
Oui.
Les réactions sont assez mixtes là. On a un ami qui rit tantôt un petit peu de tout ça. On va pouvoir en parler un peu plus en détail, voir c'est quoi ce vent de changement là.
Oui, effectivement. On va également parler d'économie, puisque le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé un mini-budget pré-Noël, une mise à jour économique. Donc, on va pouvoir décortiquer cette mise à jour-là et également parler d'économie parce que les travailleuses des CPS sont deux des trois syndicats principaux, ont accepté des mandats de grève générale illimitée avec des taux d'approbation de plus de 90% parmi leurs membres.
C'est assez
très
marquant.
Fort.
92, là, c'est très fort là, pour un mouvement qui approuve une grève. Là. C'est assez unanime, mettons.
C'est assez unanime. Le troisième syndicat est en vote jusqu'à mardi, donc on va parler de ça également. Et on va aussi parler un petit peu d'environnement parce que on a plein de catastrophes naturelles qui s'abattent sur le Canada et c'est pas exactement un hasard, ça fait partie des conséquences des changements climatiques, mais on doit parler justement de ces inondations qui frappent autant la côte pacifique dans le sud de la Colombie-Britannique que la côte atlantique parce que c'est à Terre-Neuve que ça frappe également. Donc, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui se déplace en Colombie-Britannique. On fait le point là-dessus. Et on va terminer notre émission normalement avec une entrevue avec nul autre que la députée de Taschereau pour Québec solidaire, Catherine Dorion. Revenir sur la lettre du ministre des Transports, François Bonnardel, qui tente de défendre son projet de troisième lien. Donc, on en parle avec Mme Dorion. Mais avant, on va commencer, comme on se doit, en chanson et en musique. On va aller écouter un artiste que t'aimes beaucoup, Sarah. On va aller écouter Philémon Simon.
Allez!
J'aime trop la vie. Et on vous revient tout de suite après avec nos nouvelles en santé.
J'accepte ma mort, ça va être facile d'être non-violent. Ça se fait tout seul. Par contre, ça me fait peur parce que ça veut dire que je peux mourir. N'importe quand, et j'ai pas envie de mourir tout de suite. Ma blonde accouche avec un autre gars, qu'il soit meilleur qu'avec moi. Je vais être bien content, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je veux que ma blonde vive, même si moi je suis mort. Planet. ça va être une merveille. Même si je suis enterré, mais j'ai pas envie de mourir tout de suite. Si la terre explose pendant que je suis dans terre, puis je suis dispersé dans le cosmos avec les autres morts qui m'ont précédé. On est juste des os dans l'éternité. Mais j'ai pas envie de mourir tout de suite. Je veux pas mourir, je veux pas mourir tout. Je veux pas mourir, je veux pas. Je peux parler, je peux chanter. Vous autres aussi, maudits coins beaux. Quand on prend le temps, puis quand on jette à l'eau. Parce que j'ai pas envie de mourir tout de suite. J'aurais envie de mettre chez tout le monde, passer ma main dans vos cheveux. M'asseoir sur le bord d'un lac à côté de ma tombe, vite pleurer des yeux.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez toujours un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité avec Guillaume Bédard et Sarah Manzano. On s'en va en COVID-19, en actualité coronavirale. Sarah, tu as devant toi les chiffres du jour.
Ben oui, dans les dernières 24 heures, on a vu apparaître 1037 nouvelles personnes infectées. C'est la première fois depuis le début du mois de mai qu'il y a autant de cas qui ont été rapportés pour une seule journée. Pour donner une petite idée, là, la tendance est à la hausse de 26 % sur une semaine, ce qui est quand même assez élevé. Le nombre de cas avait pas augmenté en septembre alors que le Québec avait été touché par la quatrième vague, fait qu'on était assez stable. Là, on est peut-être en train de voir une petite hausse réapparaître, ce qui peut être... En tout cas, je ne veux pas trop me prononcer, mais avec le nouveau Delta qui a été découvert, tout ça, je pense qu'il va falloir redoubler de prudence encore plus, surtout que le temps des fêtes arrive très bientôt. Malgré ce nombre de cas élevés, il n'y a aucun décès qui vient alourdir le bilan. Ça, on est très heureux de l'entendre au moins. La moyenne quotidienne demeure à 3. La tendance est stable à ce niveau-là cette semaine. Pour ce qui est des hospitalisations, on est aussi heureux de l'entendre, une légère baisse. On compte présentement 206 personnes hospitalisées, soit 4 de moins que la veille. Dans ce nombre-là, 43 se retrouvent aux soins intensifs. On leur souhaite un prompt rétablissement.
Oui, donc uniquement 43 personnes aux soins intensifs sur 206 personnes hospitalisées. C'est quand même un bon ratio.
Ça le fait bien.
C'est quand même pas un mauvais ratio pour ce qui est de la COVID-19. Et en fait, ce qu'on comprend de ces chiffres-là, ce qu'on est capable d'en déduire, c'est que la couverture vaccinale au Québec, comme elle est beaucoup plus haute que ce qu'elle ne l'est, par exemple, aux États-Unis, en Europe, eh bien, ça a un impact. Ça a un impact qui est très, très important. Cet impact-là, oui, ça veut dire qu'on a moins de cas par million d'habitants, mais ça veut également dire que, pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que même si on a une hausse de cas, on n'a pas encore ni de hausse d'hospitalisation, ni de hausse du nombre de décès à déplorer. Mm-hmm. Donc, la vaccination fonctionne. C'est grosso modo, si on avait besoin d'un argument pour dire que la vaccination fonctionne, je pense que les chiffres qu'on a devant nous en ce moment pourraient pas servir mieux. Donc ça, c'est bien. Par contre, comme tu l'as dit, il faut redoubler de prudence, ben particulièrement oui. À l'approche des fêtes.
Il y a aussi notre corps, là, notre système immunitaire là, qui est de plus en plus fragile là, avec l'hiver, le froid qui arrive. Moi, personnellement, en ce moment, là, j'ai un petit rhume. Je n'ai pas le COVID. Je me suis fait tester, on s'entend.
Merci beaucoup.
Il faut faire attention. Là. Soyez prudent avec votre santé. Prenez les précautions nécessaires. Puis faites attention à votre entourage. Là.
Oui, effectivement. Écoute, selon Isabelle Paré du Devoir, des experts jugent qu'il est minuit moins une pour des centaines de milliers de Québécois bientôt vaccinés depuis plus de 6 mois pour aller chercher leur troisième dose, leur dose de rappel. Selon Roxane Borges da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, on la cite directement, c'est le train de la science qu'il faut suivre, pas celui des politiciens. Et la science nous dit que l'immunité procurée par le vaccin diminue après 6 mois. Il faut être agile, rapide, ne pas attendre la catastrophe. Ce serait faisable de faire ça rapidement en même temps que la campagne pour les enfants. Donc, c'était les propos de Roxane Borges da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, tel que rapporté par Isabelle Paris du Devoir. On a plusieurs autres experts qui sont interrogés dans cet article du Devoir qui s'appelle « Une troisième dose pour affronter les fêtes ». Et essentiellement, ce que ça nous dit, c'est que oui, on a un avantage au Québec parce qu'on est mieux vacciné que d'autres populations qui sont très similaires, mais on n'est pas fait génétiquement de manière différente des Britanno-Colombiens ou des Européens ou des Américains. Et donc, baisse de l'immunité qu'on voit après 4 mois, qu'on voit après 6 mois, ben on va la ressentir chez nous aussi. Et on a plusieurs millions de Québécois que ça fait plus que 6 mois qu'ils ont reçu leur dose, particulièrement les travailleurs, les travailleuses de la santé qui ont été vaccinés, on se rappelle, en priorité en janvier, février, même mars. Eh bien, ça fait plus que 6 mois. Donc, tous ces travailleurs, toutes ces travailleuses de la santé-là, eh bien, leur immunité est présentement en train de descendre et on a une hausse du nombre de cas. Pour des experts en immunologie, c'est une bombe à retardement. Avant qu'il n'y ait des éclosions dans les hôpitaux, il faut accélérer cette dose de rappel au Québec. Si on veut justement pas que la cinquième vague... En fait, si on veut que la cinquième vague soit une vague qui fasse essentiellement des cas, mais pas ni de décès, ni d'hospitalisation, parce que c'est ça, si on a juste des cas, c'est pas la fin du monde quand même.
Mais non, c'est pas ça qui va faire arrêter de tourner le monde. Je pense que entre des morts et quelques personnes malades, le choix est relativement facile au bout du compte.
Oui, effectivement. On a également un article de Marc-André Gagnon dans le Journal de Québec qui nous apprend en fait plus d'informations sur la vaccination des 5 à 11 ans parce qu'on sait que ça a commencé cette semaine. On se rappelle que c'était le dernier groupe majeur à ne pas encore avoir eu l'autorisation de recevoir quelques vaccins contre la COVID-19 que ce soit. Donc, c'est cette vaccination des 5 à 11 ans qui devrait nous permettre de potentiellement mettre fin à cette pandémie-là.
Potentiellement boucler la boucle, comme on dit.
Potentiellement boucler la boucle. On sait qu'on a déjà 25% un peu plus du quart de la population des 5 à 11 ans du Québec qui a pris rendez-vous pour sa première dose. Et ça, c'est quand même assez incroyable puisque les rendez-vous sont uniquement offerts depuis mercredi. Donc, en 3 jours, on a 25% de la population qui a pris rendez-vous. Écoute, ça a un impact incroyable, ça. Juste ce 25 %-là, ça va déjà commencer à changer la donne. On sait qu'au Québec, en ce moment, la plupart des éclosions ont lieu dans des écoles primaires parce que, justement, on attendait avec autant d'impatience la vaccination des 5 à 11 ans. Cette vaccination-là, qui peut être accélérée pour avoir une double dose, on sait que, présentement, c'était un problème pour les enfants de 11 ans. Parce que le passeport vaccinal s'applique à toutes les personnes de 12 ans et plus. Par contre, tu pouvais, jusqu'à mercredi passé, uniquement prendre rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19 à partir du jour de tes 12 ans. Et donc, tout le monde qui avait 12 ans avec un gap de 2 mois à peu près où est-ce qu'on leur demandait le passeport vaccinal, mais ils ne pouvaient pas avoir le passeport vaccinal parce qu'ils n'étaient pas encore vaccinés, parce qu'il y avait des délais à avoir entre les multiples doses.
Une petite lacune dans le système à ce niveau-là, j'ai l'impression.
Oui, ben c'est ça. Donc, les parents qui veulent avancer la vaccination de leur bout de chou vont pouvoir le faire parce que présentement, la recommandation de l'Institut national de santé publique du Québec, c'est 8 semaines, mais ils vont pouvoir devancer ça jusqu'à 3 semaines, qui est la recommandation du fabricant. Ça va pouvoir particulièrement avoir un impact sur le tournoi international de Pee-wee de hockey de Québec, trop qui est prévu cute. Du 9 au 20 février 2022, qui demande justement
cette vaccination-là, ce passeport, oui, je me doute.
C'est ça, ce passeport vaccinal-là, mais on sait qu'il y a plusieurs joueurs et joueuses qui sont nés en janvier. Donc, s'ils peuvent être doublement vaccinés avant le début du tournoi le 9 février...
Ça serait l'idéal.
Ce serait l'idéal pour eux et pour elles. On va continuer en COVID-19 parce qu'on a potentiellement une très mauvaise nouvelle. Un nouveau variant qui a été détecté en Afrique du Sud. L'Organisation mondiale de la santé tient une session spéciale pour étudier le nouveau variant. C'est un article de The Associated Press qui a été partagé par Radio-Canada Information. En fait, l'Organisation mondiale de la santé va se réunir aujourd'hui pour déterminer s'il s'agit d'un variant préoccupant comme les variants alpha, bêta et delta ou d'un variant d'intérêt qui est quand même intéressant, qu'il faut quand même surveiller, mais qui est moins grave. Et donc, on va quand même utiliser une lettre grecque pour le classer. On peut penser au variant nu, au variant lambda, par exemple. Donc, c'est pour ça que l'OMS tient aujourd'hui une nouvelle session spéciale. C'est quand même très inquiétant, ce potentiel nouveau variant-là.
C'est inquiétant, mais il faut quand même rassurer les auditeurs en précisant que ce variant-là n'a pas encore été détecté au Canada, n'a pas encore été découvert au Canada. Je pense pas non plus qu'il est encore en Europe, à moins que je me tire dans le pied en disant ça.
Un premier cas a été détecté en Belgique ce matin.
Un premier cas en Belgique, donc ça commence tranquillement, pas vite, mais ce n'est pas drastique ou dramatique non plus. Donc, il faut faire attention, il va falloir rester alerte. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions au niveau des frontières. Est-ce qu'on les garde ouvertes? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des vols? Ça va être quoi la procédure pour les personnes qui reviennent, l'isolement, ça va être pendant combien de temps, les procédures qui doivent être suivies. Il y a aussi un petit débat au niveau de, oui, mais il n'y a aucun vol qui va directement de l'Afrique du Sud. C'est souvent des vols qui font des escales, qui arrêtent à quelque part. Mais on rappelle que dans les premières vagues de COVID, même les vols qui faisaient des escales quelque part, on demandait aux personnes de quand même rester isolées au retour et de prendre les précautions nécessaires là, qui étaient demandées par la santé publique.
Effectivement. Nouvelle de dernière heure, le premier ministre François Legault réclame d'Ottawa la suspension des vols en provenance de l'Afrique du Sud en raison du nouveau variant. Donc, effectivement, on veut commencer à fermer les frontières du côté du gouvernement québécois. Mais c'est sûr que le Québec n'étant pas un État indépendant, il n'a pas présentement le contrôle sur ses frontières. C'est à Ottawa que ça va se décider. Et en fait, ce que le premier ministre du Québec demande à Ottawa, c'est essentiellement d'emboîter le pas à l'Europe parce que, encore une fois, un article de l'agence France Presse relayé par Radio-Canada Information, l'Europe se ferme à l'Afrique du Sud après la découverte d'un nouveau variant. L'Italie s'est déjà fermée à... a interdit tout voyage. On sait que l'Italie avait été particulièrement frappée par la première vague de COVID-19. On a d'autres pays qui ont mis sur... C'est ça, donc le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas ont interdit les vols en provenance d'Afrique du Sud. D'autres pays comme l'Allemagne ont demandé des... ont demandé des quarantaines de 14 jours. Ça commence un petit peu à se refermer. On voit des nouveaux confinements réapparaître. On se souvient que la semaine dernière, l'Autriche, les Pays-Bas ont imposé des confinements à leur population à cause de cette cinquième vague de COVID-19 qui était particulièrement inquiétante. Pour l'instant, les cas de ce variant, de ce nouveau variant sud-africain, ont été détectés à Hong Kong, au Botswana, en Afrique du Sud, en Israël, nouveau ce matin en Belgique. Donc, c'est le fait que ça se répande plus vite et en fait, surtout, que ce soit le variant qui est le plus muté depuis le début de la pandémie. C'est ce que nous apprend Maria Cheng d'Associated Press, un article relayé par Le Soleil. Qu'est-ce que ce nouveau variant en Afrique du Sud? Si ça vous intéresse, ce sujet spécifiquement, on vous encourage fortement à aller lire l'article, à aller vous informer sur le sujet.
Je pense que dans ce genre de situation-là, c'est super important de s'informer là, sur c'est quoi un petit peu la nature de ce nouveau variant-là pour pas non plus se faire des idées, être prompt à lire de la mauvaise information, de la misinformation, comme on dit en anglais.
La désinformation.
Désinformation, oui. C'est ça. Donc, on vous encourage plus que fortement à aller lire. Là. Plus on est informé, mieux on va être capable de se protéger, de vraiment prendre les précautions nécessaires là, pour... c'est ça, pour contrer ce variant-là.
Oui, et c'est sûr qu'on vous encourage fortement, si ce n'est pas encore fait, à aller vous faire vacciner, à aller chercher votre deuxième dose de vaccin. Si vous avez de la parenté qui a le droit d'aller chercher sa troisième dose, encouragez-les à le faire. Ou si vous avez de la parenté également, des amis qui ont entre 5 et 11 ans, allez les encourager. Vous pouvez même les accompagner quand ils vont se faire vacciner. Non, c'est très, très, très important, justement, d'augmenter cette couverture vaccinale-là au Québec pour qu'on puisse passer à travers cette cinquième vague sans qu'il n'y ait de dommages. On sait maintenant, ça fonctionne, c'est ça qui fait une grande différence. Donc, on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, la plupart des cas sont concentrés à Montréal, mais même si on est dans la grande région de Québec, on veut juste pas que ça s'empire. On va terminer ce segment COVID-19, ce segment pandémique, se déplaçant en fait à l'Assemblée nationale parce qu'on se rappelle qu'il y a présentement 3 enquêtes simultanées sur la situation des CHSLD. Lors de la première vague de la pandémie, on se rappelle qu'en 4 mois, plus de 4000 personnes sont mortes uniquement dans les CHSLD. Au total, au Québec, on a eu à peu près 11 000 morts, si ma mémoire est bonne. Donc, 4 000 morts uniquement dans les CHSLD dans les 4 premiers mois de la pandémie. C'est une proportion qui est énorme. C'est plus qu'un drame. Et donc, ça explique pourquoi est-ce qu'il y a une enquête de la protectrice du citoyen qui s'est achevée cette semaine. Il y a l'enquête de la coroner Maître Kamel et on a également une enquête de la commission de la santé, de la commissaire à la santé du Québec qui se déroule présentement. Et on a un article de Sophie-Hélène Leboeuf de Radio-Canada qui, en fait, relate l'entrevue entre Alec Castonguay et Hélène Vallière, qui est vice-protectrice du citoyen, qui nous raconte, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces 4000 morts? Et ce qu'on apprend vraiment, c'est que les CHSLD étaient sous-financés. Les CHSLD n'étaient pas équipés et on avait une espèce de contradiction entre la volonté d'être un milieu de vie et la volonté d'être un milieu de soins. Et ben, on avait trop d'emphase qui était mise sur le milieu de vie et pas assez de compétences, pas assez de connaissances sur le milieu de soins. Alors, lors de la première vague de la COVID-19, quand on s'est ramassé à avoir une pression énorme sur la quantité, sur la qualité de soins à prodiguer, c'est sûr que ça a eu un impact majeur sur, sur, en fait, la qualité de vie dans les CHSLD. Le fait de ne pas pouvoir envoyer les patients des CHSLD aux hôpitaux, ça aussi, ça a eu un impact incroyable. Si vous voulez aller lire l'article, on vous encourage fortement, mais c'est vraiment pas terminé, ces enquêtes-là, parce que, justement, il y a l'enquête de Maître Kamel qui continue à partir de lundi. Et un des grands points, un des grands points d'achoppement, c'est sur les rapports d'inspection de ces CHSLD. Et hier, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, après s'être fait poser la question à 3 reprises, a toujours refusé de dire s'il a en sa possession les rapports d'inspection ou non. Ce qu'on avait appris dans l'enquête de Maître Kamel, c'était que ces rapports-là étaient écrasés, étaient détruits au fur et à mesure par la machine du système de la santé. Rapports qui n'avaient été mis sur pied qu'après le scandale du CHSLD Aaron, après que ce scandale-là ait coulé dans les médias. Mais sans, c'est assez incroyable de penser ça, que le ministre de la Santé pourrait avoir accepté cette destruction d'informations-là ou pourrait retenir potentiellement cette destruction d'informations-là. C'est ce qui avait fait dire au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, plus tôt cette semaine, que le gouvernement nous cache des choses.
Ben oui, mais tu sais, on ne sait pas si c'est par orgueil, préserver une certaine forme de réputation. Tu sais, je veux dire, si ça sort et si ça se confirme, je me doute qu'il va avoir une grosse remise en question de sa crédibilité, de son poste, de sa propre personne.
Ben, il n'était même pas en poste à l'époque.
Ben ouais.
C'est Mme Danielle McCann qui était en poste à l'époque. Il a pris le flambeau par après. Donc, pourquoi est-ce qu'il il refuse de révéler ça? Pour le ministre, en fait, c'est pour respecter le déroulement normal de l'enquête. Mais selon le critique libéral Marc Tanguay, c'est une tentative de noyer le poisson, de faire diversion.
Mais oui, tu sais, je comprends absolument pas son point de dire que le suivi normal de l'enquête, c'est... En tout cas, je trouve ça ridicule un petit peu, là. Il y a quelque chose... Il y a un manque d'incohérence à quelque part. Tu sais, il y a clairement un blocage qui est fait. Tu sais, ne pas fournir ces documents-là empêche l'enquête d'avancer comme elle pourrait avancer. Tu sais, les donner, les mettre en lumière, les mettre au jour.
Les rendre publics.
Les rendre publics, tu sais, maudit, ça simplifierait tellement de choses et ça pourrait enfin être le premier pas vers des solutions et des pistes d'action concrètes pour régler ces problèmes-là qui sont là depuis longtemps dans nos CHSLD, là.
Oui, effectivement. Donc, on espère que ce dossier-là va être capable d'avancer, va être capable de se régler. Sous peu, on va continuer à suivre pour vous avec une très, très grande attention l'enquête de Maître Kamel. Et on va continuer à parler du Parti libéral juste après la pause publicitaire et musicale, parce qu'il tient son congrès en fin de semaine. Il essaye de faire un virage progressiste, un virage à gauche. Donc, on vous en parle juste après cette petite pause publicitaire et musicale sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent toutes nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Ah, donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission 2 en 1, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Un Phare dans le Midi, votre quotidienne actualité sur les ondes de Chiz 94.3 avec Guillaume Bédard et Sarah Manzano. Et on va aller parler du Parti libéral du Québec. on va parler en fait de politique de manière plus générale, mais on commence avec le Parti libéral du Québec parce que c'est son congrès cette fin de semaine pour son dernier congrès normalement avant les élections. C'est un article de Nicolas Lachance dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui dit que c'est une fin de semaine cruciale pour la chef Dominique Anglade. Donc, son dernier congrès avant les élections. Et c'est donc sa possibilité de mettre sur pied essentiellement le squelette, la charpente de sa plateforme électorale. Oui. On a vu ça la semaine dernière pour Québec solidaire. La semaine prochaine, ce sera le Parti québécois. Il y a deux semaines, c'était la Coalition Avenir Québec qui se prêtait à cet exercice. Donc, vraiment, les formations majeures du Québec. On est en pleine saison des congrès. Et là, cette fin de semaine, c'est le tour du Parti libéral du Québec. Et là, Dominique Anglade veut sauver la mise en ouverture de son premier congrès. En fait, elle veut essayer de sauver les meubles au Parti libéral du Québec en tentant de faire un grand coup d'éclat, un virage à gauche, un virage progressiste et environnemental. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner?
Ben écoute, dès que l'annonce a été faite, moi, j'ai vu plusieurs personnes dans mon entourage sourciller en se demandant, tu sais, c'est quoi s'auto-proclamer progressiste fédéraliste. Ce parti-là, en gros, se dit que c'est Québec solitaire, sans la souveraineté et avec un budget un petit peu plus raisonnable. Moi, je sais pas à quel point les promesses qu'ils vont faire vont vraiment être tenues. Ils disent vouloir désirer fusionner économie et écologie, faire des grands changements sociaux et économiques comme l'hydroélectricité et l'assurance maladie. Tu sais, le gouvernement Trudeau s'était déjà autoproclamé progressiste fédéraliste et je sais pas à quel point on l'a vraiment constaté ultimement.
Oui, effectivement, fédéraliste, c'est un fédéralisme très centralisateur de la part de Justin Trudeau. Progressisme, ça dépend sur quels enjeux. On a juste à mentionner les enjeux des nations autochtones pour dire que, ben, on pourrait faire un petit peu mieux quand même.
Un petit peu beaucoup plus d'efforts.
Également, dans les enjeux environnementaux, Justin Trudeau a beaucoup déçu. Donc, est-ce que Dominique Anglade va être capable de convaincre les électeurs de gauche d'aller voter pour elle? C'est à voir, c'est vraiment très, très à voir. On a plusieurs propositions à gauche du PLQ qui sont mises en lumière par cet article de Nicolas Lachance, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, élargir la couverture d'assurance maladie et étudier la possibilité d'y inclure les soins dentaires, oculaires et auditifs, ainsi que la psychothérapie et la physiothérapie. Donc, c'est une proposition d'étude, hein? C'est pas une inclusion directe, c'est juste étudier cette possibilité-là. On offre la gratuité des services de garde du dîner dans les écoles, on exige le retrait des énergies fossiles, des investissements sous gestion de l'État et de ses organismes, et on veut une réforme environnementale du code du bâtiment. Donc, en termes de grands chantiers, Mme Anglade veut se réclamer de Robert Bourassa et des grands chantiers du Québec des années 60, 70, 80. Je suis pas sûr qu'il y a rien dans ce que je viens de dire qui pourrait être considéré comme un grand chantier. On est plus dans des ajustements à la pièce, dans des corrections de parcours.
C'est rien qui est farfelu, mais c'est rien non plus qui est extrêmement... je veux dire, il y a des belles propositions là-dedans, mais il n'y a rien qui mérite de se jeter à terre en lisant ça, là, je dirais. Là.
Non, effectivement, c'est assez difficile, en fait, de savoir comment est-ce que ça va passer, non seulement auprès de l'électorat, mais aussi beaucoup auprès de la base libérale elle-même.
À l'interne, ça semble assez... En tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, surtout les anciens, les plus vieux, les ex...
La vieille garde libérale.
Ça semble pas aussi réchauffer à cette idée-là de progressiste fédéraliste.
Oui, effectivement. On a un ancien élu qui a affirmé à Martine Biron de Radio-Canada Information qu'il ne faut jamais laisser tomber un vote que tu as pour un vote que tu voudrais avoir. Mm-hmm. Donc, c'est son avertissement parce que cet ancien élu croit que Dominique Anglade risque de s'enfarger en faisant le grand écart en essayant de piger à la fois dans le programme de la CAQ et dans celui de Québec solidaire. Donc, est-ce que ça va fonctionner? C'est à voir. On a également un ex-député qui dit « Le cœur à gauche, la tête à droite, c'est ça les valeurs libérales, tout comme l'appartenance au Canada, l'économie et la liberté individuelle. Pour les moments, les valeurs de Mme Anglade, c'est rien. » Donc, c'est très, très rough, qu'il y a dans les corridors, qu'il y a en coulisses présentement envers Mme Anglade. On va voir comment est-ce qu'elle va être capable de passer à travers, comment est-ce qu'elle va être capable de répondre à ça, comment ça va se passer son congrès.
T'sais, je comprends qu'il y a sûrement une espèce de démarche partisane qui va à travers tout ça. On veut gagner des votes supplémentaires, on veut un petit peu bouger avec les mouvements sociaux. Mais c'est pas mauvais non plus de vouloir faire des changements dans ce sens-là. C'est pas mauvais de vouloir faire des changements qui priorisent le social, priorisent l'environnement, même si ça sort de ce que le parti est habitué. Peut-être qu'on va être surpris, peut-être qu'il va y avoir vraiment des changements concrets qui vont être apportés. Moi, je suis jamais contre l'idée d'un parti qui essaye de faire un virement un petit peu plus vert, un peu plus social. Reste à voir comment il est fait et avec quelle sincérité il va être fait aussi, ce virement-là. Là.
Oui, effectivement. Convaincre son auditoire naturel, sa base, mais également convaincre sa... mais également convaincre des nouveaux électeurs. Mm-hmm. On va rester en politique parce qu'on va continuer sur un sujet qu'on a abordé plus souvent dans les dernières semaines, mais qui nous tient beaucoup à cœur ici à CHS 94.3. C'est le projet de loi 92, celui qui met en place un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et en matière de violence conjugale. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Ça a été adopté hier soir selon les informations de François Carabin, correspondant parlementaire du Devoir à Québec. Ça a été souligné avec soulagement par les porte-parole des trois oppositions, Véronique Yvon du Parti québécois, Christine Labrie de Québec solidaire et Isabelle Mélenchon du Parti libéral. Ces trois oppositions-là ont souligné à quel point ça va être un travail transpartisan, à quel point, selon Christine Labrie, c'est un projet de loi qui ressemble en rien à la version qu'on nous avait présentée. J'espère que ça va vraiment contribuer à contrer le cynisme envers la politique. Ensemble, cette transpartisanerie-là, à quatre élus, avec le ministre responsable Simon-Jolin Barrette, il et elle ont été capables de faire avancer le dossier grandement pour maintenant... Espérons-le, avoir un tribunal spécialisé qui puisse vraiment changer les choses. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça faisait partie des recommandations de plusieurs commissions d'enquête. Donc, pour nous ici, c'est une bonne chose.
Moments d'aussi grande collaboration là, en politique, ça arrive pas si souvent que ça. Puis moi, ça me donne chaud au cœur de voir ça. Je suis contente que... On voit concrètement que ça peut se produire et que ça peut continuer de se produire dans le futur. Là, ça donne un petit peu d'espoir.
Oui, effectivement. On rappelle que si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez toujours appeler la ligne d'urgence de SOS Violences conjugales au 1-800-363-90-10. Et il y a également la ligne Info Aide Violences Sexuelles au 1-888-933-90-07. Donc, il y a toujours des ressources pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales et sexuelles. Donc, ça, c'est important de le mentionner. On va aller dans quelque chose qui n'est pas exactement de la politique, mais qui commence à s'en rapprocher un petit peu. Les CPE qui tombent en grève générale illimitée... Donc aujourd'hui, 11 000 travailleuses des centres de la petite enfance affiliées à la CNN, la CSN viennent d'adopter un mandat de grève en faveur d'une grève générale illimitée qui pourrait commencer dès le 1er décembre. Des informations de Gabriel Bellan dans la presse. C'est assez spécial quand même de voir 92,1% de ces travailleuses-là qui votent pour un arrêt de travail. Les éducatrices se disent prêtes à négocier 24 heures sur 24 avec le gouvernement. Avant ça, 32 000 membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec affiliés à la CSQ qui avaient voté à 91,2% en faveur d'un mandat de grève général. Donc, ça semble très, très unanime de ce côté-là, mais ça ne bouge pas du côté du gouvernement. La ministre présidente du Conseil du Trésor du Québec, Mme Sonia Lebel, dit, et on la cite, « Je l'ai dit dès le début, on ne pourra pas offrir des rehaussements à la même hauteur que ce qu'on a fait pour les éducatrices, les enseignants, les infirmières, parce que si on faisait ça pour l'ensemble des employés, on n'aurait pas été capable de faire ces efforts pour ces employés-là. C'est une question de capacité de payer. » Mais elle craint pour les enfants qui ont subi beaucoup de contre-coups pendant la pandémie. Elle dit être impatiente pour les parents et être vraiment désolée de ce qui se passe. Donc, on voit qu'elle essaie d'attirer un certain capital de sympathie, mais qu'elle ne va pas bouger d'un seul poil de ses convictions. Elle a déjà, selon elle, suffisamment sorti le chéquier. Donc, c'est à voir comment est-ce qu'elle va continuer à réagir maintenant qu'on a un mandat de grève aussi fort de la part des éducateurs. Éducatrice en garderie.
Rendu là, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça va vraiment être un combat de conviction là. Quelle autruche va sortir la tête du sable en premier? Je veux pas. Moi personnellement, je suis en termes de est-ce qu'ils ont assez sorti le chéquier? Je sais pas. Tu sais, les travailleurs en milieu d'éducation là, de la petite enfance, c'est super important là qu'ils aient les ressources et le salaire nécessaire pour vraiment donner l'accompagnement nécessaire pour ces jeunes-là, puis je comprends que c'est handicapant, puis je comprends qu'en ce moment, tu sais, peut-être que ça fait des problèmes à ce niveau-là, mais il faut vraiment venir balancer ça, là. Ça fait beaucoup trop de temps que ces conditions-là, puis que ces salaires-là durent, puis il faut revenir balancer la chose, là.
Effectivement. On va prendre une petite pause musicale et on vous revient tout de suite après avec des nouvelles municipales. On va parler de troisième lien et de l'affrontement qui s'en vient entre le maire Bruno Marchand et le ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel. Vous écoutez toujours Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de CHIZ 94.3.
Yeah.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Un phare dans le midi sur les ondes de Chiz 94.3, votre quotidienne d'actualité. C'est Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en compagnie de Sarah Manzano. Et on va parler rapidement du troisième lien. Parce que le maire de Québec, le maire nouvellement élu de la ville de Québec, Bruno Marchand, veut des explications sur le rejet de la voie réversible. C'est l'information que nous apporte Jonathan Lavoie de Radio-Canada Information. On a également un article de Émilie Pelletier du Soleil sur ce même sujet. Et essentiellement, c'est un rapport qu'on a qui nous vient parce que le ministre des Transports, cette semaine, avait, dans une lettre, expliqué, fait une mise à jour sur le réseau express de la capitale, donc sur le troisième lien et sur le projet de tramway. Et il avait dit que le projet de troisième lien, il n'y aurait pas pour l'instant de voie réversible sur le pont Pierre-Laporte. On se souvient que c'était une des recommandations du maire sortant de la ville de Québec, Régis Labeaume, dans sa dernière lettre en tant que maire. Pour M. Marchand, la simple parole du ministre François Bonnardel n'est pas suffisante. On le cite directement. Peut-être que ce n'est pas possible. Je ne suis pas ingénieur. Je veux voir les données. Je veux qu'on me démontre ce que M. Bonnardel avance. Si ce n'est pas possible, mettons cette solution-là de côté et trouvons-en d'autres. Parce que même si le projet de tunnel Québec-Lévis va de l'avant, on se rappelle que Bruno Marchand parle toujours de ce projet-là au conditionnel. Ce qui n'est pas anodin. Donc, même si ce projet-là va de l'avant, et il ne va pas être ouvert avant au moins une dizaine d'années faciles. Donc, en attendant, si on veut améliorer la mobilité, dit toujours Bruno Marchand, ne négligeons aucune mesure d'innovation qui permettrait d'améliorer la mobilité. Donc, Bruno Marchand met un petit peu M. Bonnardel sur la sellette en disant, ben, si tu veux améliorer la mobilité, pourquoi est-ce que tu ôtes cette option-là?
Ouais.
C'est ça. Et une des raisons, selon M. Bonnardel, de ne pas faire ça, c'est que ça coûterait potentiellement trop cher. On se rappelle tout de même que le projet de troisième lien coûterait pour l'instant un budget de 10 milliards, ce qui, on le rappelle, 10 fois plus cher que ce qu'il faudrait pour ramener les Nordiques à Québec. L'équipe complète inclue avec un nouveau stade, tant qu'à y être.
Et en plus, surtout que c'était dans les nouvelles là, ces temps-ci de ramener les Nordiques, fait que assez concept.
Assez concept. On a également une annonce de Judith Drémeule dans Le Soleil. Il va y avoir des travaux d'urgence sur le pont Pierre-Laporte en décembre parce que il y a un certain défaut du revêtement qui cause des degrés de corrosion à la surface. Donc, il y a certaines parties du pont Pierre-Laporte qui sont rouillées. Donc, en décembre, si vous avez à prendre le pont Pierre-Laporte, faites le moins.
C'est un bon conseil.
Voilà, prioriser le télétravail, prioriser le transport en commun, prioriser le pont de Québec, le covoiturage. Ce seront des travaux d'urgence qui devraient se dérouler la nuit et la fin de semaine pour empêtrer le moins possible le trafic sur le pont. Reste que la meilleure manière de ne pas empêtrer le trafic sur le pont, c'est de ne pas y rouler.
On
va dire ça comme ça. On va se déplacer en Colombie-Britannique, parce que les inondations ne sont pas terminées là-bas. Ça fait 10 jours que ça dure et c'est toujours aussi catastrophique. Le premier ministre du Canada se déplace sur les lieux, Sarah.
Oui, c'est bien ça. Donc là, 10 jours après le bilan, les constatations sont catastrophiques. Il y a certaines routes qui sont passables, il y en a plusieurs qui sont balayées, il y a des travaux de réfection qui sont en train de se faire, il y a des pertes agricoles très, très lourdes. C'est assez difficile là, là-bas. La route 1 qui traverse la vallée Fraser qui a été rouverte à la circulation jeudi, qui échappe aux limitations de déplacement imposées en vertu de l'état d'urgence. Mais il faut quand même être très prudent sur les routes. Les expertises géotechniques menées depuis 10 jours sur la transcanadienne sont positives pour l'instant, mais ça peut changer. C'est certain que les réseaux d'éclairage électrique n'ont pas encore été endommagés pour la signalisation. Toutefois, l'échangeur avec la route 3 n'est toujours pas accessible. Pour ce qui est de la route 5, la Coquihalla, si je prononce bien. Ce n'est toujours pas opérationnel avant la fin janvier. Celle-là, c'est vraiment difficile, vraiment affectée. Il y a 130 km d'asphalte au moins qui sont hors d'usage. 5 ponts qui se sont effondrés. C'est assez terrible. Il va y avoir beaucoup de travaux, beaucoup de... c'est ça, beaucoup de travail qui va devoir être fait dans les prochains jours. Surtout que il annonce 3 tempêtes qui arrivent. D'autres excellentes nouvelles, comme on dit.
Oui, effectivement. Et c'est pas seulement en Colombie-Britannique que ça frappe, pas mais également tout. À Terre-Neuve.
Oui, comme on l'a dit tantôt, là, la côte Pacifique et la côte Atlantique, les deux sont affectés. Là, il y a le premier, il y a le ministre de la Protection civile, Bill Blair, qui annonce que les forces armées iront prêter main forte aux résidents de la région de Port-au-Basque à Terre-Neuve, isolés depuis le passage d'une importante tempête de pluie cette semaine. Il a publié dans un Twitter que nous serons toujours là pour protéger les Canadiens, pour atténuer l'impact. Nous avons approuvé une demande assistance pour le soutien des forces canadiennes. Donc, il va avoir ce soutien-là qui va sûrement enlever un poids pour certaines personnes de la communauté. Reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Avec tous ces problèmes-là à Terre-Neuve, à Labrador aussi, il faut mentionner que les denrées se font rares de plus en plus. C'est difficile de se procurer des produits alimentaires. Il y a une pénurie d'essence qui est en train d'apparaître. Donc, c'est assez difficile. Là. Ça semble être assez sombre pour les prochains jours. J'espère que tout va se régler le plus rapidement possible. Il y a le premier ministre Andrew Furey qui a déclaré jeudi que les autorités étaient prêtes à faire face aux perturbations en faisant venir des produits par avion si c'était nécessaire. On espère que les mesures nécessaires là, seront prises en temps et lieu et le plus rapidement possible, surtout que les produits pharmaceutiques commencent aussi à être épuisés. Comme tu l'as dit aussi, là, à la lumière de tous ces problèmes-là, il y a Justin Trudeau aujourd'hui qui volait en avion suite à sa rencontre avec la mairesse de Montréal pour venir constater les dégâts de la vallée du Fraser. Donc, en ce moment, il est en avion où il doit être pas loin d'arriver, c'est ça exactement. Et il va être là-bas vraiment pour constater les régions sinistrées par les inondations en Colombie-Britannique et voir c'est quoi les dégâts et voir qu'est-ce qui peut être fait aussi ultimement à travers tout ça. Là.
Oui, effectivement. On va terminer notre émission rapidement en parlant du mini-budget Girard, donc une annonce, une mise à jour économique avant Noël. La grande mesure phare, c'est un chèque de 200 à 275 $ par personne pour 3,3 millions de Québécois. Donc, si vous avez fait moins de 56 000 $ dans votre année, votre ménage, en fait, si votre ménage a fait moins de 56 000 $ dans l'année, vous êtes... normalement admissible à cette prestation-là. Le ministre Girard s'est défendu que cette annonce soit électoraliste. Il a dit ne pas avoir pensé une seule fois à l'élection dans les 12 derniers mois. Il dit simplement avoir l'argent nécessaire pour faire ces chèques-là à cause d'une reprise beaucoup plus forte qu'anticipée de l'économie. Il dit également que ces chèques-là vont servir à contrer l'inflation, la hausse du coût de la vie. Donc, c'est à voir. C'est à voir quel impact est-ce que ces chèques-là vont avoir sur les finances québécoises, sur les finances des familles québécoises également. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous.
Ben merci. Comme d'habitude, j'étais très contente de jaser avec toi.
Mais merci à toi aussi, cher public, d'être avec nous toujours à chaque jour pour cette quotidienne d'actualité. Et on se retrouve lundi pour d'autres informations à Fort dans le midi, ta quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Le 2 décembre à 20h, Avatar vous invite à l'événement Plein Jeu. sept artistes invités feront résonner le majestueux orgue du Palais Montcalm par le biais de dispositifs électroniques. Plein Jeu est une production d'Avatar. Billetterie, palaismontcalm.ca.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Oui. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis matins de 9h à 11h, sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Becci.
Jamais sans nos lanternes, yeah, yeah. Comme du camping, posé sur le coin comme du camping, planté sur le coin comme du camping. En congé ici avec des bons gars, des bonnes filles. Quand faut célébrer, on dit longue vie. Pas personne veut le pack que l'avant m'a fait. La mémoire ne sait plus.